Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, la démocratie participative s'arrête-t-elle au seuil de l'entreprise ? C'est devenu un lieu commun, la démocratie représentative est en crise. Qu'ils soient nationaux ou locaux, les élus souffrent la plupart du temps d'un déficit de légitimité puisque choisis par une minorité de citoyens. Il faut donc faire vivre la démocratie autrement, nous dit-on, en inventant de nouvelles formes de délibération et de nouveaux espaces de décision. Discours assez banal aujourd'hui, sauf si vous cherchez à l'appliquer au monde de l'entreprise. Le constat est pourtant le même. Avec 8% seulement de syndiqués, la France affiche un des plus faibles taux de représentation de ses salariés. Pour autant, la question démocratique, qui semble beaucoup moins débattue que dans le reste de la société, poids de la tradition hiérarchique oblige. Alors, le projet de loi que présentera la ministre du Travail en mars prochain pourrait changer la donne. Myriam El Khomri veut faciliter l'usage du référendum en entreprise pour ratifier des accords. Il s'agira de permettre aux organisations, qui représentent au moins 30% du personnel, de déclencher une consultation des salariés et de rendre contraignant le résultat de cette consultation. Alors, on peut y voir une façon de mieux prendre en compte l'avis de ses salariés, mais est-ce vraiment la bonne façon de procéder ? Et plus largement, la démocratie participative s'arrête-t-elle au seuil de l'entreprise ? C'est notre sujet du jour. Ils seront quatre pour en discuter ce soir. Noémie de Grenier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice générale de Copanam. Copanam qui est une coopérative d'activité et d'emploi, qu'on pourrait également qualifier d'entreprise partagée, dont vous pouvez peut-être nous préciser un petit peu la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise partagée ou qu'est-ce que c'est qu'une coopérative d'activité et d'emploi ?
Alors Copanam, c'est une SCOP statutairement, c'est une société coopérative ouvrière de production. Cette entreprise, on est à peu près 800 à la partager aujourd'hui, 800 personnes qui vivent de leur activité et qui se salarient au sein de la même entreprise. On mutualise tout un ensemble de fonctions juridiques, administratives, comptables et on construit ensemble une nouvelle forme d'entreprise qui répond à nos besoins à la fois de travailleurs autonomes et d'associés de cette coopérative.
Voilà, et oui, les questions démocratiques sont très présentes. On va avoir évidemment l'occasion d'en discuter. Pour discuter avec vous, justement, Jean-Paul Charlet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'Association nationale des DRH. Les DRH, faut-il le rappeler, ce sont les directeurs des ressources humaines. Vous êtes par ailleurs vous-même DRH dans le groupe Etam, qui compte plus de 4000 points de vente, j'ai vu ça sur le site, et 16 000 collaborateurs dans le monde. Bah, faire vivre la démocratie dans un groupe comme celui-là, vous nous direz à quelle difficulté vous êtes confronté, si jamais vous êtes confronté à des difficultés. Troisième invité, Jean-Emmanuel Rey, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de droit, vous êtes spécialiste de droit du travail, vous enseignez à l'école de droit de l'Université Paris 1 ainsi qu'à Sciences Po et vous avez publié en septembre dernier aux éditions Liaison, les relations individuelles de travail. Et puis notre quatrième invité, c'est Renaud Dalmar, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de réalisation à Radio France, on n'a pas cherché très loin pour trouver notre quatrième invité, délégué CFDT, vous siégez au CE, au CCE et au CHSCT de Radio France. Alors pour entamer la discussion, je voudrais d'abord faire un petit tour de table sur votre appréciation aux uns et aux autres sur ce que représente peut-être la démocratie dans le cadre de l'entreprise. Ou en tout cas, peut-être pour poser la question de manière un petit peu différente, Jean-Paul Charlet, est-ce que vous pensez que c'est plus difficile qu'ailleurs de faire vivre la démocratie, c'est-à-dire plus difficile dans l'entreprise qu'en dehors de l'entreprise ?
Je ne sais pas si c'est plus facile ou plus difficile. Ce que je pense profondément, c'est qu'on ne peut pas agir longtemps dans une entreprise sans avoir les salariés de son côté et sans respecter leurs intérêts. Après, c'est l'expression de ces intérêts qui peut prendre plusieurs formes. Bon, soit de démocratie directe, mais c'est vrai que le format de l'entreprise ne s'y prête pas vraiment. On n'est pas Glaris ou Appenzell en canton suisse, ni la ville de Saillant qui s'illustre dans cette démocratie directe. Donc la notion de référendum, jusqu'à cette histoire récente présentée par Myriam El Khomri, que d'ailleurs au demeurant je soutiens, le référendum il était utilisé que très rarement. La démocratie représentative, qui est incontournable, même si on connaît les difficultés de tout système médiatisé aujourd'hui, ou intermédié en tout cas. Donc il n'y a pas d'autre solution que ça. Et puis au milieu, il y a cet espace de liberté, de démocratie participative, qui je pense, pour un certain nombre de raisons, sur lesquelles on aura certainement l'occasion de revenir tout à l'heure, me paraît aussi nécessaire.
Je poursuis mon tour de table, Noémie de Grenier.
Moi, effectivement, le fait de travailler depuis de nombreuses années dans une SCOP place un petit peu différemment pour moi le débat de la démocratie en entreprise. J'ai le sentiment que dans la plupart des entreprises en France aujourd'hui, c'est tout simplement pas un cadre démocratique.
Pour quelle raison ?
Une SCOP, si je la définis comme une entreprise démocratique, c'est parce que chaque salarié a vocation à en devenir associé, à prendre part aux grandes décisions qui concernent la vie de l'entreprise, parce que ces salariés sont majoritaires au capital, détiennent la plupart des droits de vote, etc. Donc on est sur une forme démocratique profondément, qu'elle soit représentative, participative, à la rigueur, les adjectifs sont pas, à mon avis, au cœur du débat. La question, c'est est-ce qu'on a envie de faire réellement entrer la démocratie dans toutes les entreprises, et est-ce que cette crise démocratique qu'on évoque en introduction, est-ce que cette crise de la représentation de la démocratie dans la société, c'est pas le fait qu'elle s'arrête aujourd'hui au seuil de la plupart des entreprises, est-ce que c'est pas ça le cœur du problème ?
Rodon Almar, je voyais que vous acquiesciez.
Oui, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que pour moi, le postulat de départ, c'est est-ce que la démocratie s'arrête au seuil de l'entreprise ? Qu'elle soit participative ou qu'elle soit représentative. Je crois qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment... il y a une structure démocratique, mais la démocratie n'existe pas dans l'entreprise. On a un rôle en tant qu'élu qui n'est que consultatif, on va dire.
Et pour autant, vous êtes élu.
Voire simplement... Tout à fait, il y a la structure démocratique, mais derrière, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir démocratique au sein de l'entreprise pour les élus, c'est-à-dire ils n'ont pratiquement aucun pouvoir. Il y a une instance qui a un petit peu de pouvoir aujourd'hui, c'est le CHSCT, qui a un peu plus de pouvoir que les autres instances. Et pour le coup, on voit que c'est très remis en question par un certain nombre de personnes et qu'on voudrait un petit peu revoir cette instance qui, pour certains dirigeants, a trop de pouvoir déjà. Donc...
Jean-Emmanuel.
On serait par demander s'il y a vraiment la démocratie au sein des entreprises.
Jean-Emmanuel Arrêt, est-ce que vous considérez que la démocratie a vocation à être pleinement au sein de l'entreprise comme elle peut l'être dans le reste de la société, ou bien que c'est une structure qui est tellement particulière que forcément c'est une notion qui doit s'y adapter de manière différente ?
Oui, je crois que le rapprochement entre démocratie politique et démocratie sociale, c'est un peu spécieux. En un mot, ça sonne bien. Ça plaît, mais c'est pas vrai. Quand Jean Roux est arrivé au pouvoir en 82, il a eu cette phrase qui résume très bien la question. Il a dit, c'est sa loi du 4 août 82. Le 4 août 82, c'est quand même pas rien d'avoir fait dater une loi sur les biens des travailleurs du 4 août 82.
Alors, je rappelle, c'était ministre du Travail François Mitterrand.
En 82, il y a si longtemps. Et Roux avait démarré son discours par « citoyens dans la cité ». Les travailleurs, pardon pour Jean Roux, doivent être citoyens dans l'entreprise. Il a bien dit dans l'entreprise, pas de l'entreprise.
Ça change quoi ?
Ça change absolument tout. C'est qu'une entreprise est un lieu privé, c'est pas un lieu public. En un mot, il va de soi que si, en tant que citoyen, j'aime bien chanter à tue-tête, c'est pas le patron de la NDRH qui me dira l'inverse. Dans une société, c'est un lieu privé, c'est pas un lieu public. Et c'est là où il faut bien comprendre la chose. Il n'y a de salariat que s'il y a un lien de subordination. Donc, j'allais vous dire, quitte à me fâcher avec au moins trois personnes sur cette table, l'entreprise ne peut pas être un lieu démocratique au sens où, à part la SCOP, mais en clair, le droit lui donne cette possibilité. Et alors, on a les contre-pouvoirs sur lesquels on reviendra. Mais on a une spécificité française qui est unique au monde. Ça, c'est notre intelligence spécifique qu'on a du mal à comprendre nos amis étrangers. C'est qu'on a deux contre-pouvoirs qui, en ce moment, se chamaillent un peu.
Ça veut dire qu'alors, avant peut-être de revenir sur les instances représentatives, qui sont importantes dans la vie, malgré tout, démocratique de l'entreprise, même si c'est différent, comme vous le dites, Jean-Emmanuel Arrêt, de ce qu'est la démocratie en dehors de l'entreprise, mais comme individu, est-ce que ça veut dire pour les uns et les autres que, autant en tant que citoyen, par exemple, si je critique aujourd'hui le chef de l'État, François Hollande, normalement, il va pas m'arriver grand-chose. Bien normalement. Si je critique, par contre, aujourd'hui, en tant que salarié de Radio France, le patron de cette radio, qui s'appelle Mathieu Gallet, là, mes droits démocratiques seront, j'imagine, un petit peu plus limités, Jean-Paul Charlet, non ? Si on vous critique, vous, comme DRH, et qu'on est salarié d'État, mais est-ce qu'on peut se permettre... Les critiques que l'on souhaite.
Si vous me permettez, je pense que la question n'est pas là et je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure.
Pourquoi la question n'est pas là ?
Parce que quand on parle de démocratie, on ne parle pas nécessairement d'autogestion.
Non, mais de liberté d'expression, enfin, ça fait partie des éléments de la démocratie.
La liberté d'expression, elle est toujours possible, elle est soumise à des impératifs de courtoisie ou parfois de discipline. Mais la question, elle est que dans une entreprise, soit par le biais des instances, soit par le biais des organisations syndicales et de leurs représentants, il y a des négociations qui se font, il y a des accords qui se signent, et moi je range ça dans la catégorie démocratie sociale. Donc on ne peut pas dire que qu'une entreprise ne fonctionne absolument pas sans tenir compte de qui que ce soit, et notamment pas de ses salariés.
Noémie de Grenier.
Oui, moi j'ai souvent l'impression qu'on prend un peu le débat par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire c'est pas seulement une question de liberté d'expression ou de possibilité d'organiser un référendum ou de la démocratie. Pour moi, il faut revenir à ce que c'est dans le fond, quoi. C'est un pouvoir qui doit être exercé par les premiers concernés. Au sein de l'entreprise, pour moi, c'est malgré tout les salariés. Après, il y a aussi des formes coopératives qui sont intéressantes, comme les SIC, qui permettent de tenir compte aussi de l'ensemble des parties prenantes. Mais il faut revenir à ça. Comment est-ce qu'on fait pour que les premiers concernés aient réellement l'exercice du pouvoir? Et du coup, il faut sortir d'un débat juste sur est-ce que je peux critiquer, est-ce que je peux voter par des petites actions comme ça, et se demander comment est-ce que réellement on exerce un pouvoir démocratique qui ne peut pas aller sans une certaine forme d'éducation à la citoyenneté économique, et de faire en sorte que les gens soient en capacité de prendre le pouvoir et de l'exercer collectivement.
Oui, mais peut-être que pour que cette citoyenneté au sein de l'entreprise existe, il faut que les gens se sentent la capacité de dire ce qu'ils ont envie de dire. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut aller vers du n'importe quoi, mais cette liberté d'expression, elle est quand même encadrée. J'ai lu un de vos textes, Jean-Emmanuel Larrey, que vous aviez signé dans la revue Pouvoir, qui était justement consacré aux libertés dans l'entreprise, et vous évoquiez la position de principe qui est celle de la Cour de cassation, qui dit ceci: sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise en dehors de celle-ci de la liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Donc c'est bien une liberté d'expression qui est encadrée au-delà de la simple courtoisie.
Bien sûr que oui. L'arrêt de revirement, c'est un arrêt qui est très typique sur le plan pédagogique. Vous aviez un monsieur qui s'appelait Monsieur Pierre dans un arrêt de 99. Il était directeur financier. Un directeur financier, c'est d'une PME. Bon, mais il était quand même chef comptable, l'équivalent de directeur financier. Et au sein d'un conseil d'administration, il a critiqué très vivement, mais très vivement, son patron. Alors, à l'époque, la coutume était qu'on ne critique pas un patron, vous rappelez la phrase, c'est souvent démission, etc. Et donc, il a été licencié pour faute, ce qui était à l'époque assez banal. Et un éminent conseiller de la Cour de cassation, qui s'appelait Philippe Vaquet, il a tenu son rôle de juge. Il a dit, à quoi sert un cadre supérieur? En un mot, un directeur financier qui voit un projet d'un employeur qui mène droit dans le mur, est-ce que le boulot, c'est ce qu'on appelle les yes man aux États-Unis? Oh oui, comme vous êtes beau, vous êtes le meilleur. Ou est-ce de dire, monsieur le directeur, dans mon expertise, ça va pas? Et donc cet arrêt, Monsieur Pierre 99, et l'arrêt qui aujourd'hui fait jurisprudence, c'est, sauf, comme chez vous les journalistes, injure. Non, on n'injurie pas. Diffamation, vie privée. Eh bien, le salarié jouit dans l'entreprise et en entreprise de sa liberté d'expression.
Alors, Renaud Dalmar.
Oui, non, moi, je crois que le seul paramètre démocratique dans l'entreprise, c'est effectivement la possibilité du droit d'expression. Mais pour l'instant, c'est le seul qui est une réalité dans l'entreprise. Parce que la difficulté... Souvent, on entend des dirigeants d'entreprise nous répondre « Bon, ben, ça y est, vous vous êtes exprimés, on vous a donné l'information, maintenant, on va appliquer le projet tel qu'on l'a prévu, sans tenir absolument compte de ce que vous nous avez avancé pendant des heures, voire pendant des jours. Donc, il n'y a aucune obligation de tenir compte de l'expertise, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut avoir un dirigeant seul qui décide d'emmener l'entreprise dans le mur. Et aucun pouvoir des élus, des experts, des personnes qui sont là depuis très longtemps dans l'entreprise pour l'en empêcher. Aujourd'hui, je crois qu'en France, on le voit, il y a un vrai syndrome du turnover des dirigeants et des cadres. On voit des entreprises où les salariés de base restent pendant des années, acquièrent une expérience, acquièrent un savoir-faire, ont une vision stratégique de l'entreprise, et puis des dirigeants qui arrivent, qui restent un an, deux ans, des cadres également, qui arrivent, qui restent très peu d'années dans l'entreprise, qui se plantent parfois, il faut le dire, et qui disparaissent et qui vont dans une autre entreprise. Donc moi, je pense qu'il faut poser la question de l'efficacité de la démocratie. À quoi sert la démocratie? C'est pas simplement, on pourrait en parler en politique, hein. Est-ce que la démocratie, ça permet d'avoir des décisions qui sont un peu plus évaluées, qui sont partagées. Je crois que quand une décision est partagée par beaucoup de personnes dans l'entreprise, c'est la même chose en politique. Quand une décision est partagée, elle a plus de valeur, à mon sens, et elle est plus évaluée, quoi. Alors, elle a moins de risque d'échouer.
La décision partagée, est-ce que c'est, par exemple, une pratique que vous mettez en œuvre, vous, Noémie de Grenier, dans le cadre de Copanam? C'est-à-dire, est-ce que les décisions sont forcément prises, si ce n'est systématiquement, mais en tout cas le plus souvent, de manière collective?
Oui, il y a une vraie pratique du collectif et une vraie envie de réinventer les formes de ce collectif en démultipliant les instances et les possibilités de construire, de délibérer, d'imaginer ensemble ce que ça pourrait être.
Quand vous dites en démultipliant les instances, ça veut dire qu'au-delà des instances qui sont connues, vous en avez inventé de nouvelles?
Oui, il y a bien sûr l'Assemblée Générale des Associés, il y a un conseil d'administration, il y a un CE, il y a des délégués du personnel, il y a un CHSCT, mais on met aussi en place par exemple des comités. En ce moment, pour répondre à plusieurs enjeux particuliers, pour faire face à, par exemple, à des problématiques d'engagement de la structure auprès de certaines activités. Et ces comités sont, par exemple, désignés sur la base du volontariat ou du tirage au sort, et qui permettent à chacun, finalement, de se saisir de son rôle de citoyen à l'intérieur de la coopérative.
Un exemple, peut-être de décision collective que vous avez eu à prendre dernièrement, mais juste pour qu'on se fasse un petit peu une idée plus concrète.
C'est des processus qui sont souvent longs, mais effectivement, une décision importante dans la coopérative, les comités, on est tout juste en train de les mettre en place, donc j'aurais pas forcément d'exemple à donner, mais sur une décision importante, par exemple, on a une loi qui nous touche, la loi Hamon, du 31 juillet 2014, qui parle des coopératives d'activité et d'emploi, qui vient nous mettre un cadre juridique sur de quelle manière on l'applique et comment on y réfléchit et comment on va réfléchir à ce qu'on applique, comment, etc. On en a parlé, évidemment, dans notre direction qui est collective. On en a parlé en conseil d'administration. On a fait état de nos réflexions à l'Assemblée générale des associés. Un groupe de travail s'est constitué qui va rendre des avis, des pistes de travail à la prochaine Assemblée générale qui permettront à la direction et au conseil d'administration de continuer à travailler pour appliquer ces décisions. Donc on est sur des processus qui peuvent prendre des cheminements longs, mais qui effectivement sont penser de manière très collective. On a un peu l'habitude de dire que tout seul on va plus vite, mais tous ensemble on va plus loin, ce qui est un peu la base de cette philosophie.
Est-ce que c'est une approche qui vous semble largement duplicable, Jean-Paul Charlet?
J'en suis pas certain. Dans une entreprise, si vous me permettez l'expression, classique, moi je sépare l'élaboration de la décision et puis la prise et la responsabilité de cette décision. L'élaboration des décisions, elle doit être faite dans les entreprises avec la concertation la plus large possible, que ce soit des collaborateurs qui s'expriment directement ou par le biais de leurs instances représentatives du personnel ou par le biais des syndicats. Très bien.
Donc référendum, sondage, par exemple.
Par exemple. Par contre, on ne peut pas contrarier le fait que la prise de décision et la responsabilité de la décision, c'est la direction de l'entreprise. Par contre, beaucoup de choses ne peuvent être faites, au-delà des procédures consultatives que vous évoquiez tout à l'heure, ne peuvent être faites qu'avec l'accord des syndicats et parfois des accords majoritaires. Au départ, un accord, il était valable quand il était signé par un seul syndicat. Après, il a fallu 30% et pas d'opposition de 50%. Et maintenant, il faut que cet accord soit signé par plus de 50%. Qu'on fait l'histoire du travail du dimanche qui a généré cette histoire de référendum. Mais sur le fond des choses, je pense que chacun doit rester à sa place.
Mais pourquoi? Alors oui, j'allais justement vous relancer là-dessus. C'est-à-dire, c'est pas seulement parce que vous considérez que techniquement, ça serait compliqué de mettre en place des processus de décision collective, mais c'est parce que c'est presque d'un point de vue philosophique.
C'est pas de la philosophie, c'est la responsabilité de la gestion de l'entreprise. Alors je suis d'accord avec cette histoire.
La responsabilité, elle peut être partagée.
Elle est partagée au niveau de l'élaboration de la décision. Mais je ne crois pas qu'il soit équitable pour un patron d'entreprise de dire « Bon, bah, très bien, je vous ai demandé votre avis, on était d'accord, donc c'est 50-50 en termes de responsabilité, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. »
Jean-Emmanuel Rey.
Oui, je crois que on prend l'exemple qui est soi-disant démocratique, parce que apparemment c'est la codétermination, la cogestion à l'allemande. Mais c'est clair que l'idée d'exporter un modèle qui est forcément national, en un mot, chaque pays a sa propre histoire. C'est vrai qu'en Allemagne, dans les mines et la métallurgie, depuis la guerre, grosso modo, là, l'employeur ne peut prendre aucune décision si jamais son syndicat n'est pas d'accord avec lui. En un mot, sur un plan de sauvegarde de l'emploi en France, on peut, le Betriebsrat, le comité d'entreprise, peut bloquer une décision. Mais ce n'est pas du tout la culture française. Donc, deuxièmement, je crois qu'une évolution qui se fait beaucoup aujourd'hui, premièrement, il y a l'actionnariat salarié, qui joue énormément, et les syndicats sont beaucoup intéressés à l'actionnariat salarié. Quand dans une grosse entreprise de BTP, vous avez les salariés qui représentent 30% des actionnaires, ils ont un pouvoir tout à fait considérable sur la gestion de l'entreprise. Enfin, et là je pense à mes propres étudiants qui sont les travailleurs du savoir, c'est clair que les meilleurs d'entre eux, les talents que cherchent toutes les entreprises, ils ne se font pas mener par la direction comme... grosso modo, on va y aller comme ça. Eux, ils veulent avoir du sens, savoir comment on y va. Et en un mot, je crois que finalement, le partage du savoir, ça va aussi tenir au niveau qui s'élève de plus en plus et au besoin d'attirer ses talents.
Mais ça veut dire que pour vous, Jean-Emmanuel, quand vous parlez de l'actionnariat salarié, si je vous suis, ça veut dire que on peut, à la limite, participer à la décision
directement
si on détient du capital. Mais par contre, si on participe à la force de travail, là, on n'est pas légitime pour participer à la décision, c'est ça?
Mais je vais pas vous faire un cours de droit commercial, monsieur, mais tout ça, c'est une question de droit, quoi, d'accord?
Bon, de droit, ouais, mais le droit, ça peut évoluer aussi,
bien
non?
Bien sûr que oui, mais grosso modo, l'idée qui est partagée partout, alors on l'aime ou on l'aime pas, d'accord, c'est qu'il y a des gens qui apportent des capitaux, d'accord? Et figurez-vous que ces gens-là, ils souhaitent ne pas perdre les capitaux, voilà. Ils souhaitent même, aux folies, dégager de l'argent avec ses capitaux, d'accord? Donc, on part du principe depuis un certain temps. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça. Le droit commercial, c'est comme ça. C'est les gens qui ont investi, c'est eux qui vont décider. Et comme l'a très bien dit le délégué CFDT, c'est le seul pouvoir actuellement des syndicats, c'est information, consultation. Effectivement.
Bah, si les salariés veulent davantage de pouvoir et davantage être entendus, Renaud Dalmar, qu'il soit actionnaire et qu'il se fasse représenter dans les conseils d'administration.
Tout à fait, mais c'est comment dire, je confirme ce que vous dites. Souvent, les dirigeants d'entreprise se voient comme les propriétaires des entreprises. Or, ce n'est pas toujours le cas. Et effectivement, la force de travail, parfois, ce sont les salariés, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont restés 30 ans dans l'entreprise, qui ont fait évoluer cette entreprise et qui ont fait cette entreprise. Et ce turnover, moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que je crois que c'est très spécifique à la France. C'est-à-dire qu'on se plante et on peut partir. Et il n'y a pas de responsabilité. Vous parlez de responsabilité, mais on l'a vu ces dernières années, il y a quand même peu de responsabilité chez les dirigeants d'entreprise quand ils se plantent. Donc, et ce sont les salariés qui en pâtissent très souvent. Donc, et quand vous dites qu'il y a une possibilité de blocage, c'est quand même des batailles complètement incroyables pour réussir à bloquer des toutes petites choses. Donc aujourd'hui, on connaît une instance qui est en capacité de bloquer un certain nombre de choses, c'est les CHSCT. Or, on entend beaucoup aujourd'hui dire que ces CHSCT bloquent trop de choses. C'est-à-dire que on renvoie à la démocratie ce truc qui serait un frein à l'efficacité de l'entreprise. Aujourd'hui, on a une vision un peu militaire de l'entreprise. Il faudrait que la décision aille beaucoup plus vite et soit beaucoup plus directe et que les gens exécutent et puis ne posent pas de questions.
Jean-Emmanuel,
juste en deux minutes. Premièrement, vous avez parfaitement raison de dire que l'intérêt de l'entreprise, c'est pas l'intérêt du capital. À ce moment-là, il faut appeler ça l'intérêt actionnaire. L'intérêt de l'entreprise, c'est un intérêt qui représente à la fois les intérêts du capital, qui a investi légitimement, et aussi les salariés qui font développer l'entreprise. Donc ça c'est clair qu'on ne peut pas assimiler l'intérêt de l'entreprise à l'intérêt du capital. Deuxièmement, et là je crois qu'on est tous français autour de cette table, on a un très lourd handicap, nous français, d'accord? C'est que on a tous été éduqués sur le mode quand on est fort, on décide, quand on est faible, on négocie. Hein, c'est Louis XIV, Colbert, Napoléon. C'est top-down. Bah, top-down, c'est fini.
Noémie Legrenier.
Moi, je suis toujours étonnée dans ces débats qu'on n'arrive pas finalement à dépasser le modèle de la société de capitaux. Je suis d'accord, c'est la définition.
Vous êtes la preuve
première.
Que d'autres modèles existent, mais il faut choisir ce modèle-là. Voilà.
Oui, je suis pour. Ouais. Et effectivement, voilà, les coopératives, les associations, les mutuelles sont bien des sociétés de personnes et qui permettent aussi de se dire, voilà, une entreprise, elle n'a pas forcément pour vocation à rémunérer le capital et on voit bien dans quelles impasses ça nous mène aujourd'hui sur le plan écologique, sur le plan social. J'aimerais réagir aussi sur la notion de co-responsabilité. Quand des dirigeants d'entreprise prennent une mauvaise décision et que la boîte se plante, c'est bien les salariés qui se retrouvent sur le carreau. Donc cette co-responsabilité, accepter, enfin, je veux dire, on subit les conséquences d'un certain nombre de décisions. Je voudrais juste faire le lien avec un sujet qui me semble un peu absent autour de la table ce soir, qui est celle d'une vraie crise et d'un vrai malaise dans le travail et dans la posture des gens au travail aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on arrive à réinterroger la manière dont fonctionnent les entreprises et la question du sens que vous évoquez dans le travail pour les gens qui frappent à la porte de la coopérative tous les jours. C'est vraiment cette question qui les guide. Comment je remets du sens dans mon travail? Comment je travaille? Comment l'entreprise est gouvernée? Comment est-ce qu'on arrive à faire société? Comment est-ce qu'on arrive à faire ensemble? Comment est-ce que j'exerce mon métier dans de bonnes conditions et dans un cadre démocratique qui me respecte en tant que citoyen? C'est vraiment des questions qui sont au cœur du débat.
Ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui viennent chez vous, Dominique de Grenier, après avoir peut-être donc travaillé dans des entreprises plus classiques, en disant bah voilà, nous on se sentait pas suffisamment écoutés, par exemple. Vous pouvez avoir ce genre de réactions, de commentaires.
Il y a deux idéotypes de gens qui arrivent jusqu'à la coopérative, des gens qui avaient très envie de vivre de leur activité, de leur savoir-faire de manière autonome, et des gens qui quelque part trouvent plus leur place sur ce qu'on appelle le marché de l'emploi, voilà, parce qu'ils sont trop diplômés, pas assez diplômés, trop vieux, trop jeunes. Enfin, c'est devenu compliqué quand même. Et souvent, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire un mélange de contraintes et d'envie. Une contrainte qui fait naître une envie, etc. En tout cas, partageant cette envie de mettre du sens dans son travail, d'être autonome, parce que l'autonomie étant la base de tout ça, et puis de coopérer, de faire avec d'autres.
Jean-Paul Charlet.
Je ne pense pas qu'on puisse raisonner en termes de blocage, en termes de fonctionnement dans une entreprise. Les intérêts d'une entreprise ne peuvent pas être, sur le long terme, contraire aux intérêts des salariés. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je considère que le contrat agile est une totale mauvaise idée parce qu'il ne sert ni les entreprises ni les salariés.
Il faut redire un mot de ce qu'est le contrat agile, hein, qui est une des dernières inventions de
certaines
notamment du MEDEF,
patronales qui permet en principe de fixer les conditions d'un départ au moment où on recrute quelqu'un. Ce qui fait que la motivation de la personne en question, pour moi, est voisine de zéro, parce que vous pouvez avoir envie d'être dans une entreprise quand vous avez à peu près l'idée que vous y serez encore le lendemain. Sur le fond, je pense que le système permet aujourd'hui d'avancer ensemble entre direction d'entreprise et entre salariés, soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs représentants. Le dialogue social, ça existe. C'est de la confrontation des positions des uns et des autres que naît le progrès. Et je pense que dans beaucoup d'entreprises en France, c'est ce qui existe.
Donc vous dites les instances représentatives, elles existent, elles fonctionnent. Donc il n'y a pas besoin d'ajouter une pièce à ce dialogue social qui serait ce référendum que propose Myriam El Khomri et qui aurait une valeur contraignante et qui pourrait être organisé par des syndicats représentant au moins 30% du personnel. Il n'y a pas besoin de ça, donc.
La difficulté est que cette idée de référendum, elle est venue sur la question du travail du dimanche. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que dans une entreprise, quand vous respectez la règle du volontariat et quand vous offrez des contreparties qui sont hautement négociées avec les syndicats, des contreparties correctes, vous n'avez pas de problème pour organiser le travail du dimanche. Seulement, la difficulté, c'est qu'un certain nombre de syndicats, dans lesquels d'ailleurs je ne range absolument pas la CFDT...
Oh, pour rien, hein,
si c'était le cas, je le ferais, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Un certain nombre de syndicats ont des postures dogmatiques sur le thème du travail du dimanche et du coup ont des positions qui sont contraires aux désirs et aux volontés des salariés. Voilà, d'où l'idée du référendum sollicité par les organisations syndicales qui ont plus de 30% quand même des salariés qui ont voté pour elles.
Renaud Dalmar, vous en pensez quoi, vous, de cette idée de référendum?
Je vais pas dire qu'il y a certaines organisations syndicales qui ont des postures, mais ceci dit, elles sont majoritaires dans l'entreprise, donc il y a une contradiction entre ce qu'ont voulu les salariés qui les ont élus et qui leur ont donné cette majorité, et vouloir passer par un référendum où les salariés voteraient, à contrario de ce qu'ils ont voté, ce pourquoi ils ont voté, je ne sais pas, 2 mois auparavant.
Vous y voyez une façon peut-être de contourner les syndicats ?
Oui, non, moi, ce qui me gêne, c'est que je pense que le référendum n'est pas la panacée en matière de démocratie, et que aujourd'hui, passer par le référendum, on a vu, même dans la vie politique, le référendum a rarement abouti à des lois progressistes. On aboutit à rien avec le référendum en général. On bloque quelque chose. Donc, c'est pas très très intéressant, je trouve, le référendum. Le problème que je vois dans le référendum, c'est que
Les élus, quand ils sont élus, ils ont une responsabilité du collectif. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prendre une décision qui serait pour trois personnes. On a une responsabilité du collectif. On ne peut pas faire n'importe quoi. La deuxième chose, c'est qu'on a une obligation d'expertise sur les dossiers. Ça veut dire qu'il faut étudier les questions. Et ça veut dire qu'au moment de que ce soit la signature d'un accord ou un vote, il faut réfléchir et il faut pas faire n'importe quoi. Or, le référendum, pour moi, c'est simplement se poser la question individuelle de savoir est-ce que cet accord m'intéresse ou est-ce qu'il ne m'intéresse pas. Et là, ça pose un problème, c'est-à-dire que on a une vision qui est auto-centrée dans l'entreprise, qui replie les gens sur eux-mêmes, alors que les amener à se poser la question du collectif est bien plus intéressant. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on donne pas assez de responsabilités aux élus. J'y reviendrai peut-être plus tard. Mais
Jean-Emmanuel Rey, vous en pensez quoi, vous, de cette idée du référendum? Est-ce que si le dialogue social fonctionnait si bien que ça, on aurait besoin de passer par ce mode de consultation des salariés?
Alors, tout d'abord, le référendum existe depuis très longtemps, le droit du travail, en matière de participation, d'intéressement. Donc en clair, l'idée en elle-même...
Sauf sur les salaires et le temps de travail. C'est là que ça, ça bloque.
Enfin, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le référendum, il est né, et là, ça sera surprendra sans doute certains auditeurs, c'est comment sont nés les délégués personnels. C'est pas un grand barbu allemand exilé à Londres qui a eu l'idée. D'accord ? Non, pas du tout. C'est l'équivalent de mon voisin qui, lors des grèves de 1917, avait 617 grévistes et il s'est dit, je ne peux pas négocier. En clair, vous voyez, c'est un truc, le droit du travail, c'est pas un droit d'intellectuel. C'est un droit, il faut que je négocie avec 617 personnes. Je peux pas, surtout en France, où l'égalité, c'est la jalousie. Bon. Résultat, il a demandé aux grévistes d'élire littéralement des délégués du personnel qu'a légalisé Léon Blum. Et alors, c'est là où je partage l'avis de mon voisin de la CFDT. C'est que, avant 2008, le délégué syndical, il était désigné top-down par une réseau syndicale. Et on se moquait éperdument de savoir, tu représentes combien? 3%, 10%. Ce qui a tout changé en 2008. C'est que maintenant, le délégué syndical, il doit avoir eu sur son nom un minimum de suffrage. Et c'est là où c'est vrai qu'avec le référendum, là, ça coince beaucoup plus qu'avant. Parce que je représente, mettons, en termes de durée de travail, la CGT qui fait, mettons, 51% avec Sud. En un mot, j'ai eu 51% des suffrages qui sont portés sur les syndicats. Et donc là, le référendum va aboutir à une espèce de court-circuit un petit peu curieux, consiste à dire des syndicats qui ont eu 51% des votants, on va demander aux votants s'ils sont d'accord avec lesquels... Non, en un mot, le référendum, il a d'abord lieu tous les 4 ans aux élections professionnelles. Et là, j'en termine. C'est moi, ce qui m'intéresse, c'est les deux syndicats qui sont opposés à la FNAC, parce que moi, j'ai des étudiants. Quand vous dites à un étudiant, tu vas bosser le dimanche, tu feras lundi, mardi, mercredi pour assister aux cours, les étudiants, ils étaient très contents, les 300%. Moi, là, si vous voulez, il y a une justice qui se fera, la justice immanente et pas immédiate. Qu'est-ce que vont devenir les syndicats qui sont opposés aux prochaines élections?
Donc vous y voyez quoi? Vous y voyez une forme de mise en concurrence des oui. syndicats avec les salariés?
Absolument. Grosso modo, c'est une mise en concurrence qui était avant, quand les délégués syndicaux étaient désignés par un syndicat qui n'avait aucune preuve à faire sa puissance. C'était finalement pas légitime, mais c'était acceptable. Là, c'est vrai qu'il y a un souci. Mais on voit très bien le problème de Mme El Khomri, c'est que si on fait une loi Macron et qui dit qu'on peut travailler dimanche dans certaines zones et que tout est bloqué, ben, on passe par-dessus. C'est le référendum, c'est passé par-dessus.
Jean-Paul Charlet, vous vouliez réagir?
Oui, alors sur cette histoire de représentativité, il faut quand même bien préciser comment ça se passe. C'est-à-dire que c'est le premier tour des élections sur lequel il y a un monopole de présentation d'un certain nombre de syndicats qui permet de déterminer après la représentativité. Bon, c'est-à-dire que dans une entreprise de 1000 personnes, vous avez 50 votants au premier tour, il y a un syndicat qui a 30 voix et l'autre qui en a 20, et bien un des syndicats a 60% de la représentativité de l'entreprise pendant 4 ans et l'autre en a 40%. Il est pas totalement exclu qu'un certain nombre de salariés qui ont commis l'erreur de ne pas aller voter aux élections professionnelles et s'en sont désintéressés, ne soient pas amenés après à s'en mordre un peu les doigts. Alors après, qu'est-ce qu'il faut comme pourcentage de votants du premier tour pour être considéré comme représentatif? 10%. Si vous faites une répartition statistique de 100 divisé par 5, c'est quand même assez rare qu'il y en ait un ou deux qui aient moins de 10.
Nomine Grenier, sauf erreur de ma part, à Copanam, il n'y a pas de syndicat, donc vous n'êtes pas confronté à cette mise en concurrence. Mais pour quelle raison, d'ailleurs, déjà, il n'y a pas de syndicat? Est-ce que ça vous semblait être une... Est-ce que ça vous semblait être juste... Non, mais une forme peut-être un peu trop archaïque de représentation des membres de cette coopérative ou...
J'ai pas d'explication toute faite. Je pense qu'il est possible qu'il y en ait un jour. pour le moment, effectivement, ça ne s'est pas trouvé. Après, nous, on entretient un dialogue qui est plus un dialogue politique avec les syndicats. Et avec divers syndicats sur la question de cette mutation du travail, de ces bouleversements dans le rapport au travail, et effectivement comment est-ce qu'on arrive à rénover des formes de démocratie et d'action collective des travailleurs pour défendre collectivement leurs intérêts. Je pense qu'il y a un vrai intérêt à renouer un dialogue entre les expériences coopératives et syndicales pour reconstruire des formes démocratiques et reconstruire une réelle force des travailleurs dans leur ensemble. Moi, ce que ça m'inspire, cette proposition de référendum, c'est vraiment on est face à quelque chose où on va toujours vers plus d'individualisation et quelque part, on est face à un vrai paradoxe. La construction démocratique, c'est tout sauf chacun donne son avis et une collection d'avis individuels. On est bien sur quelque chose qui est de la construction collective, de l'intelligence collective, et puis aussi un enjeu que je cherchais à mettre en avant au début de cette émission, mais qui est au-delà de la dimension de consultation, etc. C'est effectivement où est le pouvoir qui l'exerce. Moi, je suis une dirigeante élue par les associés. Le conseil d'administration dans son ensemble est élu par les associés. Je suis révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il y a un vrai pouvoir qui est en capacité de s'exercer. Pour autant, on n'est pas sur une construction de contre-pouvoir, mais plutôt de comment est-ce qu'on arrive à se compléter les uns les autres et à faire avancer nos projets collectifs et à se défendre dans un univers qui est quand même terrible. Pour le travail aujourd'hui, c'est pas du tout facile de vivre de son travail décemment aujourd'hui. Décemment, c'est-à-dire dans des bonnes conditions de travail, de salaire et dans des bonnes conditions en termes de sens et d'exercice de son métier.
Redon Almar.
Oui, vous disiez au début de cette émission qu'il y avait sans doute le référendum était arrivé parce qu'il y avait une crise de la représentation syndicale. Moi, je crois qu'il y a une crise de la représentation syndicale parce que... aujourd'hui, l'élu n'a pas l'obligation de responsabilité, finalement. Il peut se permettre n'importe quelle posture. Moi, je pense que si l'élu avait plus de poids pour aboutir à la décision qui sera prise finalement par le dirigeant de l'entreprise, mais s'il avait plus de poids dans les instances, je pense que, d'une part, les électeurs se poseraient la question du choix au moment du vote, et puis l'élu pèserait les choses et se dirait si je bloque tout, qu'est-ce qui va se passer pour l'entreprise? Donc, je pense que donner plus de responsabilité à un élu, je pense qu'il agira autrement. Et je pense que c'est là qu'il y a un problème et qu'il manque un petit quelque chose en plus dans l'entreprise et dans la possibilité démocratique de l'entreprise, même si on ne va pas arriver à des décisions partagées, comme dans les COP, mais je pense qu'on peut arriver à donner plus de responsabilité.
Il y a eu une loi sur le dialogue social l'été dernier, Renaud Dalmar, qui était la loi Rebsamen, qui a révisé, enfin qui a essayé en tout cas peut-être et de simplifier, de regrouper dans certains cas les instances représentatives, oui. Mais vous dites en gros il aurait fallu aussi réfléchir aux pouvoirs qui sont ceux de ces instances.
Mais assez clairement quand on l'analyse et moi je l'ai analysé avec d'autres personnes dans certaines réunions, cette loi Rebsamen, c'est Haro sur le CHSCT, hein. C'est assez clair, c'est-à-dire que on essaye de mélanger les instances. Pourquoi ? Parce qu'on dit que les instances, c'est un frein. On prend trop de temps pour les instances et il y en a trop aujourd'hui. Mais on regarde quelle instance on veut limiter. Eh bien, on voit que c'est le CHSCT.
Bon, Jean-Emmanuel Rey et Jean-Paul Charlet, donnons davantage de pouvoir à ces instances représentatives et peut-être que la légitimité des organisations syndicales en sortira un peu revigorée.
Sur la crise des corps intermédiaires, je crois que les partis politiques sont dans le même état que les syndicats. En un mot, il y a un problème très général de crise des corps intermédiaires. Bon. Deuxièmement, je crois qu'il y a...
Peut-être pour les mêmes raisons d'ailleurs.
Hein. Oui, sans doute pour les mêmes raisons. Et justement, j'y arrive. C'est le référendum, il a toujours existé. Et là, on parlait tout à l'heure des parachutes en or des grands dirigeants. Mais c'est pas ça la France. La France, c'est quand l'artisan en fait faillite, bah lui aussi, il tombe par terre. Et donc, là, aujourd'hui, avec une nouvelle technologie, vous imaginez bien que dans une boîte de 70 personnes, ça choque beaucoup de juristes, mais on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et par SMS, d'accord? En un mot, grâce aux nouvelles technologies, aujourd'hui, il y a des décisions qui se prennent de façon absolument atypique sur le plan juridique. Mais, et dans les PME, c'est tous les jours, tous les jours. Et, excusez-moi, mais pour terminer une grève, et pour avant de signer un accord difficile, qu'est-ce que faisait le délégué d'une boîte de 110 personnes? Il faisait le tour dans les bureaux, les ateliers. Voilà. C'est marqué nulle part.
Jean-Paul Charlet, ce sera la conclusion.
Deux choses très vite. D'abord, on nommait souvent les petites entreprises qui n'ont ni représentation du personnel, ni délégation syndicale, et qui représentent quand même une part importante du tissu économique dans notre pays.
Et essayer de changer justement la loi Rebsamen.
Absolument, mais par un système quand même un petit peu boiteux. Et deuxièmement, ce que je considère fondamentalement, c'est que tout corps intermédiaire vit s'il a une valeur ajoutée. Je pense que c'est une question qui interpelle autant les partis politiques que les syndicats, que toutes les institutions médiates.
Eh bien écoutez, ce sera la conclusion provisoire à ce sujet. Le dialogue social, c'est un thème qui revient assez régulièrement, je dois dire, dans cette émission. Merci en tout cas à tous les quatre d'y avoir participé. Jean-Paul Charlet, Jean-Emmanuel Rey, Noémie Degrenier et Renaud Dalmar. Émission que vous pouvez réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez la télécharger pendant un an et vous pourrez bientôt à nouveau commenter ce qui se dit. Vous savez que le site est encore un petit peu neuf, donc il lui faut un petit temps pour se mettre, pour se déployer totalement. Je voudrais également remercier l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Cyril Baer, Hugo Florent. Émission réalisée par Anne Kobilac avec la prise de son Clément Daté. Demain, nous parlerons des élections américaines pour nous demander pourquoi elles constituent une passion française, visiblement.